Volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Mon invité aujourd'hui dans le volume sur 11 est une star du rock Touareg. J'ai le plaisir de recevoir Bambino, et ça se passe en direct de Niamey au Niger. Bonjour Bambino, c'est un vrai plaisir de te rencontrer.
Bonjour, salut.
Alors, avant de parler de ton parcours musical, comment est-ce que tu définis ta musique ?
Bon, en tout cas, très difficile. Si on peut dire musique rock, blues, parce que la musique Touareg, elle est universelle. Donc, peut-être elle embrasse toutes les musiques. Donc,
ouais.
Finalement, elle n'a pas vraiment un nom, mais moi, je peux dire plutôt blues rock.
Plutôt blues rock, d'accord. Alors, quel est ton parcours musical, ça ? Comment on devient une star internationale ? N'hésitons pas à dire le mot.
En tout cas, bon, c'est un très long parcours qu'on a esquisé, moi, mon français, qui n'était pas... Bon, bref. Tout a commencé à l'âge de 10 ans, 11 ans.
Ouais.
Et à l'époque, 90-91, c'était au Niger, il y avait une tension, c'était la première rébellion Touareg. Donc on était à Agadez, il fallait aller quelque part parce que la tension était beaucoup montée et on est parti en Algérie à Tamaracet. Et c'est là où, c'est en 90, entre 90 et 91, 12. Et du coup, on a fait le voyage, c'était mon premier voyage, je voyais le désert, je voyais les grandes vides, et je vois des voitures, je vois des goudrons que je ne connais pas, bref. Et du coup, chaque soir, il y a des cousins qui venaient nous voir. À Tamaracet, c'est en Algérie, il vient avec l'air acoustique pour un peu mettre l'ambiance, comme on venait de Niger, là où il y a la guerre. Donc ils jouaient. Les soirs, quand ils partaient, ils cachaient leur guitare. Et moi, le matin, bien sûr, notre père nous a mis à l'école pour qu'on parte à l'école tous. Et moi, je me cache quelque part pour que personne ne me voit. Quand je vois la maison est vide un peu, je sorte pour un peu voler la guitare, si je peux dire, parce que pour moi, c'est pas ma guitare, donc je le vole. J'essaie de grioter, je ne savais pas jouer. Donc j'avais les sons des cousins qui jouaient les soirs, tout a commencé comme ça. Et bien sûr, quand il y avait eu les accords de paix 95, on a décidé de retourner à la maison. Et c'est là où j'ai dit, il faut que je trouve une guitare. Parce que trouver une guitare à l'époque, c'était vraiment... Si tu veux, il faut mieux même aller chercher l'argent du mec pour aller chercher l'argent de guitare. C'est tellement difficile de trouver. Ouais. Mais comme dans la famille, j'entends parler, on nous parle toujours d'un oncle qui était parmi les premiers à venir ici à la capitale de Niamey. Et il est devenu un grand peintre des tableaux. Il faisait des tableaux, des dessins du désert. Donc, il reçoit des invitations pour aller à Paris, à Barcelone, dans les musées différents de l'Europe. Donc, au retour, il amène des instruments, soit des pianos, soit des accordons.
Ouais.
De guitare acoustique, bien sûr, ou de flûte, parce que lui, il joue de flûte, la flûte aussi. Quand on était même de retour à 95, mon seul souci, c'est d'aller à Niamey. Et à Niamey, j'ai pas l'argent, j'ai pas ni l'âge, et j'ai peur même de demander aux parents, parce qu'ils vont pas me laisser. J'ai seulement 15 ans ou 14 ans.
Ouais.
Et là, du coup, Je me suis embarqué dans une voiture qu'il faut arriver payer. Donc là, on a fait 2 jours sur la route pour venir voir l'oncle qui habitait à côté du stade de Saint-Kunti. Je suis venu, bref, l'oncle, parce que les gars qui m'ont amené, qui gérait les transports, il a gardé mes affaires pour que j'arrive à payer. On est venu chez l'oncle, on a expliqué l'affaire, il a payé les transports. Et M. Bambino, il est arrivé à Niamey, et je vois du stream chez l'oncle. Mais la pire surprise, c'est quoi? C'était... Maintenant, l'oncle, il reçoit son neveu qui est là, le matin, il se réveille, il va lui faire un cadeau. Donc, il rentre dans ce magasin, il prend un accordéon, il est donc.
L'accordéon.
Et j'ai là, comme ça, point. Moi, c'est pas ça que je fais venir chercher, c'est des guitares. Maintenant, chez nous, c'est... Tu vois, quand quelqu'un te donne un cadeau, tu sais pas comment lui dire pour lui dire non, c'est pas ça, je vais... Tu veux l'autre, tu vois,
c'est très délicat.
C'est trop délicat. Je suis là 2 jours, 3 jours. Dans le 4e jour, je suis... Bah, je dis non, attendez, il faut que je parle. Donc, je suis parti déposer l'accordéon. Lui, il est là, il fait ses tableaux, j'ai rien dit. Il m'a dit, je suis là pendant 30 minutes, j'ai rien dit. Il m'a dit, Oumara, ça va? Je lui ai dit, non, ça va, ça va. Il m'a dit, tu veux aller, non? Tu veux aller à Gdès? Je lui ai dit, oui, je veux vraiment aller. Il m'a dit, non, je vois tes yeux. Je lui ai dit, bon, mon oncle, moi, c'est l'accordéon, là, je ne veux pas. Est-ce que tu peux me le changer contre la guitare? Et il m'a fait comme ça. Ah bon? Donc, toi, tu peux faire la guitare? Je lui ai dit, oui. OK. Et il m'a changé. C'était comme ça, il m'a fait.
La première guitare.
Du coup, le voyage, ça a pris 10 mois. Ça a pris vraiment 4 mois avant que je retourne. Et bon. Bref, voilà un peu comment tout a commencé.
D'accord.
Et maintenant, dans entre les années 97 et jusqu'en 2006, il y avait un travail qui était beaucoup développé au Niger, le travail du tourisme. Donc, je faisais ça, comme je connais un peu le désert. J'ai une voiture 4x4 qui n'est pas du tout très chère. Et je me débrouillais avec ça pour un peu vivre de ma musique. Ouais. Donc pendant tout ce temps, il y avait des amis qui venaient, jusqu'on a créé un lien. Chaque année, il vient. Donc quand il revient, il m'amène des cordes. Et moi, c'était le seul truc qui me plaît, en fait, c'est d'amener mes amis au désert et jouer ma guitare.
D'accord.
Et vraiment, cette expérience, ça m'a beaucoup appris à travers mon instrument et moi-même, l'amour de la musique. Je pense que c'est, quand tu joues pour toi, c'est différent quand tu commences juste pour avoir quelque chose au retour. C'est très différent. C'est à travers ce voyage-là que j'ai compris que dans l'instrument, il faut d'abord l'aimer et pour que tu arrives à comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans ou quels accords qu'il y a, combien de notes ou quelle est sa définition de là où elle finit, quoi. Parce que chaque fois quand tu découvres une autre mélodie de notes, il y aura une autre encore. C'est que pendant toutes ces années-là, la guitare, elle finit pas, ça finit pas, quoi.
toujours travailler, toujours pratiquer.
Il faut toujours travailler, pratiquer. Et j'étais là en 2006, en 2007, c'était... Maintenant, j'étais sauté en 2005 parce que je suivais un groupe de musical qui était vraiment connu à Gdès et au niveau international. C'est le leader, il s'appelle Hasso Akotey, qui est, à l'époque qui a fait les premiers noms du groupe Tartit. Mais après ça, il y avait un autre groupe Tartit de Mali qui est sorti. Mais avant ce groupe de femmes, lui, il a créé le nom là, premièrement. Donc il avait une des amies à Los Angeles et qui travaille à Gdès. C'est une amie qu'elle avait une ONG, ça s'appelle Nomad Foundation. À travers cette fondation-là, elle nous amène, comme elle a une boutique chez elle à Ojai, On faisait des concerts, juste des concerts devant les boutiques pour ramener les clients. Ouais. Et du coup, il y avait un monsieur qui passait. Mais avant d'arriver ça, maintenant, il y avait l'histoire du visa.
Ah.
Parce que c'est, c'est ma première visa aux États-Unis.
D'accord.
C'est ma première sortie. J'avais 25 ans, parce que c'était en 2005. J'étais là, bah, on est venu, paf, paf, ils ont pris les rendez-vous, on est parti à Costa. Et là, les gars, c'était le gars qui, je me rappelle, même, il avait ses amis, parce qu'on est devenus des amis après. Il avait ses lunettes, il m'intervenait. Il m'a dit, j'ai entendu, maintenant je suis parti. Il a ouvert mon passeport, il n'y a aucun visa, il n'y a rien.
Aïe.
Il m'a dit, tu vas aux États-Unis, pourquoi? Il a dit, je suis plus joueur de la guitare. Il a dit, ok. Il m'a dit, quel est le meilleur artiste? Quel est le meilleur guitariste au monde? Tout ça, il m'a dit. Je lui ai dit, pour moi, c'est Jimi Hendrix.
Ouais.
Il m'a regardé. Il m'a dit, non, je ne te laisse pas passer. Ok. Je suis sorti. J'ai deux questions, il m'a posé. Il ne m'a pas posé la troisième. Il m'a mis les revues. Je suis sorti, mes amis avec qui que je dois accompagner pour aller à Los Angeles, ils me disent comment, je dis, bon, moi je suis échoué. Comment ça? Donc ils ont appelé la dame qui s'occupait de nous, elle m'a appelé pour comprendre un peu.
Ouais.
Je lui ai dit la même chose. Ouais. Il m'a demandé, je pars aux États-Unis, je dis oui. Il m'a demandé quel est le meilleur artiste, quel est le meilleur guitariste au monde. Je lui ai dit Jimi Hendrix. Il m'a dit non. Donc, la femme, elle a une grande influence ici à Bambosat. Donc, elle a réussi à convaincre le conseil. Mais le conseil, il a dit à une condition, que je joue devant lui.
Pour prouver.
Pour trouver que je suis l'artiste.
Ouais.
Madame, parce que je suis parti, je suis frustré, parti. Sorti, fermenté, j'ai réussi l'appel. Paf. Elle a dit, il faut que tu reviennes au consulat avant 17h. Si tu peux aller maintenant, même c'est bon. Je dis, je pars maintenant. J'ai pris ma guitare.
Ouais.
J'ai rentré, j'ai posé la guitare. Au début, j'ai joué. Après, ils sont venus me dire d'arrêter jusqu'à ils ont venu. J'ai dit, ok, j'ai arrêté. Après 5 minutes, 10 minutes, il est venu. Il s'assoit, je l'ai joué. J'ai joué. Il m'a dit de continuer. J'ai joué. Il dit, continue. Au cinquième morceau, je lui dis, là, il faut que tu payes, là. Là, il a rigolé. Donc, quand je suis venu, il a même déjà mis le visa, il m'a donné mon passeport, il m'a dit, quand tu reviens, viens me voir. Je suis parti, j'ai fait mon voyage. C'est là où, maintenant, l'histoire des fondations nomades commence. Parce que c'est, quelque part, c'est grâce à ses amis, qui ont des fondations un peu partout, un peu par-ci, par-là. Donc, on faisait des animations pour arriver un peu à tirer des clients qui arrivent à acheter des appuis, des bijoux. Mm-hmm. Donc, il y a un monsieur qui est passé. Le monsieur-là, il travaillait avec Rolling Stone, par hasard.
Et nous, on connaît... Bon hasard.
Oui, un hasard, en tout cas. Et... ce qui est autant les gens, nous on ne connaît pas la langue. Personne ne connaît les langues qui sont pas à ces moments.
Ouais.
Et la femme, elle était là, elle dit waouh, quoi? Vous ne connaissez pas les gens? Elle dit non. C'était les meilleurs, quoi. C'était un des vieux groupes qui est top. Elle dit ah bon, on est là. Elle nous regarde, on ne peut jamais pas. Il dit quoi? Vous n'êtes pas content? Je dis non. Vous connaissez? Ça ne fait rien. Bref. Ils nous ont demandé d'interpréter une chanson « Hey Negrita ». J'ai oublié la signification. Bon, je pense que c'est une chanson d'amour. Et c'était Hasso à côté qui était le chef du groupe qui interprétait la chanson. Et moi, j'étais comme accompagnement, chœuriste dans ces comme une compilation pour Rolling Stone. On nous a amenés dans les buildings de Hollywood, là, c'est là-bas, on a fait l'enregistrement. Ils sont venus nous charger avec le musée. Et nous, on est là avec le turban. Bref, Et c'est une des premières expériences avec les stars. Et ça nous, en tout cas, aux États-Unis, ça nous beaucoup aidé, cet échange bien musical. Et après ça, il y a un long groupe tiré parce que quand on est revenu, les groupes sont partis. Moi, j'étais là à Miami pour un peu essayer de développer la musique, pour aller à côté de l'Europe, pour voir comme c'est la première fois. Et je fais le visa. Et aussi, c'est la même chose. Il est réussi. Il fallait que je trouve un ami français qui m'a écrit une lettre. Et jusqu'à même le concile, il me disait les fameux musiciens. Parce que mon ami il me disait fameux musiciens. Et il est là, finalement, grâce à cette lettre-là, le concile il a accepté de m'accorder le visa pour aller faire mon expérience en France, pour voir comment bouger les choses.
Ouais.
Et j'étais là. Il y avait un cinéaste qui fait des petits cinémas et documentaires qui est basé à Los Angeles, que son nom est Ron William. Donc, il me suivait, il y a très longtemps. Donc, quand il a vu qu'on a passé à Los Angeles, il a vu les petits concerts qu'on a fait, il a contacté notre ami pour voir qu'est-ce qu'il peut prendre contact avec nous. Et elle, en même temps, elle a besoin d'un film.
Oui.
Parce qu'elle est orangée, maintenant, elle a besoin d'un film, elle a besoin d'envoyer un caméraman pour filmer ses actions ici, dans le désert. Donc, elle a envoyé ces messieurs-là, même ça, qui nous cherchaient. Il nous a trouvés à Ouaga, au Burkina Faso.
Oui.
À l'époque, je partais à Ouaga beaucoup parce qu'il y avait la femme que j'ai tombée amoureuse, elle était là-bas.
D'accord.
Donc, chaque fois, on parle. Donc, du coup, comme je sais que mon ami va venir, c'est plutôt pour moi qu'on commence à Ouaga. Et comme je vais faire un documentaire sur les Touaregs jusqu'à Agadez. Donc, on a commencé un trick là-bas. On sortait en brousse pour organiser des petits spectacles pour inviter nos amis, pour que notre ami trouve une filmage et une son. Et tu vois, dans les YouTube, il y en a. Et c'est ça qui a ce documentaire qu'il a appelé Rebellion and Touareg, je pense en anglais. Donc, ce documentaire a commencé à parler de l'histoire des nomades Touareg à travers Burkina jusqu'à Niger et Mali et l'Algérie et la Libye.
Ouais.
Il parle de ces zones et aussi de la musique. Et puis quand il parlait de la musique, il parlait de nous. Parce qu'à l'époque, il y avait des rébellions en 90 et 2007. C'est celle qui a fait fuir le tourisme que je te parle. Et c'était une rébellion qui finit vite parce que les gens ne sont pas tous d'accord avec ça. Parce que, en tout cas, c'était vite parti. C'est pas du tout comme par rapport au Mali, ici les gens. Je pense qu'ils ont beaucoup appris par rapport à des années 90. Et personne ne veut revivre ce moment, quoi.
Je comprends.
Donc du coup, j'ai essayé de comment trouver un manager ou trouver des concerts à l'étranger. Donc on avait le projet là avec Ron William. Donc du coup, il voulait nous payer par rapport au travail qu'on a fait jusqu'à l'amener au nord de Niger. Donc nous, on a décidé. Bon, bref, j'ai décidé, à travers cet argent-là, qu'il nous trouve un studio qui est abordable, tu vois, avec quelqu'un qui peut travailler nous pour faire l'enregistrement avec cet argent-là.
Ouais.
Et quelque part à Boston ou à New York. Ah, il a dit oui, pourquoi pas. Donc, c'était commencé comme ça. Et quand il a fini son documentaire, il est retourné à Boston. Il a travaillé, il a donné beaucoup de gens nous sont pour voir comment. Donc, avec l'argent, là, on est parti nous aider à Boston,
Ouais.
faire les cinq chansons. On a déposé une lettre de demande de sponsors au gouvernement
D'accord.
américain
Ouais.
pour qu'on arrive à venir avec l'équipe ici au
Ah oui.
Niger, aller jusqu'à Grèce. Et par coup de chance, c'est marché. Ça a marché, on est venu avec l'équipe jusqu'à
D'accord.
Grèce. On a fait l'album, c'est pour cela l'album, c'est ça.
Oui.
C'est pour cela qu'on a appelé l'album Agadez.
Agadez, d'accord. Donc c'est ton premier album, Agadez,
C'est mon premier
donc qui est
album.
sorti en
En
2011.
2011.
D'accord. Alors, on sent dans ta musique il y a du rock, il y a du
Oui.
blues, et il y a aussi évidemment des musiques traditionnelles touareg.
Oui.
Donc, comment ça s'est passé ce mélange? Comment tu t'es initié au rock ou au blues? Est-ce que c'est quelque chose que tu écoutais
Oui, bon, si tu veux, bon, bien sûr, il y a l'amour, il y a l'envie de jouer quelque chose qu'on découvre, en fait, si tu veux. Et aussi, en écoutant les autres, ou en regardant les autres jouer, ça pousse à développer ton idée de jouer ou bien ton manière de jouer la guitare. Et surtout parce que quand j'ai fait après ces voyages, l'Algérie, revenir les années 95, parce que quand j'ai eu ma guitare, ma première guitare, quand j'étais qu'un petit, je voyais le désert, j'ai envie de découvrir encore cette famille qui est de l'autre côté de la frontière, de l'Algérie ou de la Libye. Quand j'ai eu ma première guitare, je suis parti découvrir, tu vois, cet endroit. Et partout là où je viens, où mes cousins qui m'amenaient dans leur chambre pour allumer la télé, et ils mettaient des grandes bandes de cassettes là. Et c'est des concerts, soit des concerts des groupes de Dire Straits ou de Jimi Hendrix. Et à l'époque, les groupes de Dire Straits, ils chantaient beaucoup. Et ils ont leur manière. Chacun vient faire ce solo et nous regarder ça, dit waouh! Et ça nous donne beaucoup. Quand tu regardes, ça te donne beaucoup envie de copier la note là et tu es là, sans mettre quelque chose dans la tête que demain tu seras là. J'ai jamais pensé qu'on aura la chance de faire ça ou de faire. Mais on a juste l'envie de jouer et de jouer les mêmes notes, mais à notre façon d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement pour moi qu'on regardait les clips là, qu'on regardait les clips des groupes qu'on ne connaissait même pas leur nom, parce qu'à l'époque c'était bande de cassettes là, ou bien des petites cassettes, que parfois il n'y a même pas de papier là où c'est écrit. Et tu écoutais, tu mettais, ça te plaît, mais tu ne connais même pas les noms. Et beaucoup de journalistes, quand je les explique ça, ils disent: ah bon, c'est vrai, c'était moi, ouais. Parce qu'à l'époque, tu reçois beaucoup de cassettes, mais quand il vient au désert, c'est déjà le papier, là, il est parti, quoi.
Ouais, bien sûr.
Tu vois? Non,
Ouais, ça a
mais
voyagé.
c'est un voyage, quoi.
Ouais.
Donc, du coup, c'est à travers cette cassette, et dans les familles, on écoutait la musique du Takamba, c'est une musique traditionnellement joué avec une guitare, soit des deux cordes du long, ou bien trois cordes, avec une espèce de tambour qu'on appelle calebasse, qui joue la basse, quoi. Et ça fait... Donc c'est une musique takamba qui, à la base, c'est les hommes qui jouent ça,
D'accord.
c'est pour faire plaisir à une femme. La femme, là, quand elle se sent à l'aise, elle descend. Elle danse à la façon traditionnellement, et c'était une musique qui était aimée beaucoup, beaucoup par les femmes. À part ce rythme, il y a les rythmes basses qu'on appelle la tende. Le rythme à la base, c'est toujours un homme qui joue ça et une femme chante au-dessous de l'homme. C'est-à-dire. Et l'homme, il fait le rythme, la femme, elle chante pour encourager son mari qui est dans le caravane, ou qui doit un grain, ou bien qui s'allie. Les hommes qui traversent le désert, c'est toujours dans ce sens. Et moi, c'est à travers ces rythmes-là, tu vois. Mm-hmm. Et avec ma guitare et les accords que j'ai appris à travers les amis, jusqu'à même à connaître leur nom. Parce qu'avant, je ne connais pas les...
Ah oui.
Je ne connais pas, on ne sait même pas comment on l'appelle Do ou Mi.
Ouais.
C'est par après que j'ai compris que cet accord-là, c'est Mi ici. Mi, Sol, Ré, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, c'est comme j'ai travaillé les accords. Et aussi pour travailler le rythme qui est vraiment traditionnellement et moderne.
Ouais.
Et pour ne pas se perdre, comme on dit, en essayant de moderniser les choses. Mais en gardant toujours ces rythmes, la base des rythmes, quel que ce soit takamba ou du tende, ou des rythmes traditionnellement qui sont typiquement du désert.
Mmh. Ouais. Alors, tu es allé à Nashville, tu as rencontré, tu as travaillé avec Dan Auerbach, donc des Black Keys.
Oui.
Tu es aussi sur le même label que Idols, Fountain D.C. Est-ce que ça, c'est des musiciens, des groupes qui ont une influence sur ta musique ou pas du tout, en fait, tu gardes quand même ton identité propre?
En tout cas, bon, pour Dan, c'était un grand fan.
Ouais.
Dan, il me suivait depuis très longtemps. Et dès qu'il a entendu qu'on a fait le premier album, et il a vu qu'on fait une grande longue tournée. Donc il a vu qu'il y a vraiment un moyen, il y a une possibilité de se voir et faire un projet avec lui.
Ouais.
Donc il a échangé. Dan, il ne parle pas anglais, il ne parle pas français.
Mm-hmm.
Et moi, mon anglais, c'était horrible. Donc, il changeait avec mon manager, qui parle français. Et c'est avec ça qu'on se communique.
Ouais.
Jusqu'à qu'on arrive à trouver en 2012 une période de rester à Nashville pendant 2 semaines. Et c'est 2 semaines-là qu'on arrive à produire l'album Nomade qui nous a fait vraiment un très grand succès mondial.
Ouais. Mm. Ouais. Alors là, tu tournes dans le monde entier. Mm. Il y a eu effectivement la phase, on va dire, de la pandémie,
oui.
Où 2 années un petit peu blanches. Ça a été difficile à vivre ?
Vraiment, vraiment, oui. Si tu veux la vérité, c'est vraiment très difficile. Parce que tu as l'impression que peut-être c'est la fin du monde. Parce que tout est arrêté tout de suite, quoi. Tout est arrêté tout de suite, quoi. Moi, personnellement, j'ai aucune réponse par rapport à ça parce que je vois un retard de la part du monde, quoi, si je peux dire ça, un retard, parce que, ou bien un recul d'un pas.
Mm-hmm.
Là où tout est fermé, là où on ne peut pas s'extraire, là où on ne peut pas s'allier, là où on ne peut pas embrasser nos amis ou embrasser nos enfants.
Mm-hmm.
C'est vraiment quelque chose qui est psychologiquement très fort dans la tête à comprendre. Et bien sûr, physiquement, avec les amis, avec les amis qu'on a eu faire à travers ces groupes, à travers ces tournées, aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Asie. Et tout d'un coup, toutes les choses s'arrêtent pendant 2 ans. Il n'y a rien qui bouge et c'est vraiment très, très difficile.
Ouais.
Très difficile.
Ouais. J'ai vu que tu avais fait quand même des concerts virtuels sur Internet.
Oui, voilà.
Ouais.
On ne fait que ça, mais parce que c'est... Heureusement, il y a ça. Parce que tu arrives à satisfaire tes fans que tu as pris une habitude d'un live et que tu as fait... Parce que, qu'on a fait un travail de groupe, qu'on arrive à faire sentir le public, c'est live. C'est live qui est vraiment, original, si je peux me flatter, qui arrive à on arrive à transporter nos fans, les amener jusqu'au désert, et juste dans l'esprit, quoi.
Ouais.
Et c'était ça, nos idées. Et pourquoi pas dans la future, et comme beaucoup de gens ils connaissent le désert du Niger, entre 1997 jusqu'en 2006, c'est l'un des les plus beaux déserts du Niger. Et j'imagine, si Dieu nous permet, un jour, il y aura un grand festival de la musique mondiale et, au Niger, et ça, dans les déserts.
Ça serait extraordinaire.
Oui.
Bah écoute, merci beaucoup, en tout cas, Bombino, pour cet échange.
Au plaisir, en tout cas.
On va écouter un titre de... Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère effectivement te voir prochainement sur scène.
Oh oui, au plaisir.
Merci.
Merci. Bye.
Volume sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois, musique du générique Nezik. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.